RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
C'est RMC, le week-end des experts et la maison. Enfin, la maison. Bah oui, c'est la maison aujourd'hui. Mais en général, arrive dans la boîte aux lettres de la maison, en ce moment, ce fameux formulaire de déclaration des revenus. Enfin, cela dit, maintenant, c'est plutôt dans la boîte mail que ça arrive.
Hein, ouais, parce qu'on est
de plus en plus
nombreux. Ça va être de plus en plus.
À déclarer ça sur Internet. Et vous savez que les pouvoirs publics vont nous obliger à déclarer sur Internet.
Hein. Oui, ça va bientôt être le cas. Enfin, je pense qu'il y aura quand même quelques exceptions. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas forcément Internet, même si maintenant, c'est pratiquement une couverture. Et j'imagine, pas loin de 100%.
Je pense. En tout cas, bon, on va faire un spécial impôt maintenant sur RMC jusqu'à 10h avec vous, Christian, spécial, et nos invités.
Voilà, spécial impôt, spécial aussi défiscalisation. Nous avons avec nous deux éminents invités sur le sujet. Maître Jean-Pascal Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà intervenu d'ailleurs dans notre émission. Vous êtes avocat fiscaliste au barreau de Paris et vous allez nous informer sur les différents impôts, les taxes qui frappent la maison, nous aider à remplir la feuille d'impôt, mais aussi nous conseiller nos auditeurs en cas de litige avec l'administration. Hugues de Tapie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine qui a le nom d'un site www.jedefiscalise.com et vous êtes spécialiste dans les placements immobiliers qui permettent justement des réductions d'impôts. Plus particulièrement, d'ailleurs, votre grande spécialité, c'est le Malraux. Hein, c'est la défiscalisation dans de l'immeuble historique, on peut dire ça, d'ancien ?
Alors, le Malraux, oui, et les monuments historiques. En réalité, il s'agit de deux concepts fiscaux différents, et nous travaillons sur tous les dispositifs fiscaux qui s'appuient sur la restauration d'immeubles anciens, divisés en appartements à usage locatif. Donc ça concerne trois principes fiscaux, la loi Malraux, la loi monument historique et le Pinel optimisé au déficit foncier.
D'accord, donc on parlera de tout cela dans la deuxième demi-heure de cette heure. Maître Jean-Pascal Michaud, est-ce qu'on pourrait faire le point un peu des impôts dont la maison peut être grevée ?
Alors, ces impôts, c'est essentiellement la taxe foncière et la taxe d'habitation, ouais, hein, qui touche tout le monde. De manière plus succincte, je dirais, il y a l'impôt sur la fortune, bien sûr, dès que le patrimoine excède un seuil important, 1 300 000 €. Et vous avez également quand même l'imposition des revenus fonciers pour tous les gens qui louent leurs immeubles.
D'accord. Et puis, dans le cadre de la déclaration d'impôt, il y a aussi le fameux problème des crédits d'impôt, sur lequel on aura certainement l'occasion de revenir au cours de l'émission. C'est-à-dire, là, c'est vraiment dans le cadre de la déclaration elle-même, donc.
Effectivement, il faut bien remplir le cadre 6, les cases du cadre 6 relatifs au crédit d'impôt auquel on a droit essentiellement pour des travaux qu'on a effectués l'année passée.
Ah là là, ces cases, toutes ces cases dans cette déclaration, c'est impossible. On fait des cauchemars de toutes ces cases. C'est vraiment, je disais tout à l'heure, c'est quand même assez stressant, hein, ce genre de moment.
Faut pas se tromper.
Ben non.
Est-ce que toutes les déclarations sont contrôlées par le fisc ou est-ce que c'est de la roulette russe?
Alors, vous avez un contrôle formel.
C'est une question personnelle, Christian, ou...
non,
c'est pas personnel.
Non, c'est pas personnel.
Excusez-moi, monsieur, continuez.
Oui, je disais, vous avez un contrôle formel toutes les déclarations, mais effectivement, c'est un contrôle qui est très rapide et on est quand même assez malchanceux si on fait l'objet d'un contrôle approfondi.
D'accord.
Voilà, puis tout dépend après, voilà, si on est salarié, si on a une entreprise, enfin j'imagine que tout ça après diffère, enfin fait que on peut être sous le collimateur des fonctionnaires fiscaux. Christian, nous avons Annie qui est là.
Oui.
Bonjour Annie.
Oui, bonjour monsieur. Donc moi j'ai un petit problème parce que j'ai fait refaire la salle de bain dans un bien locatif.
Oui.
Changer la baignoire, mettre une douche, refaire tout bien nickel, joli, et j'ai les factures.
C'est les locataires qui doivent être contents, là.
Je fais les travaux, voilà.
D'accord.
Je fais propre et beau. Et donc, je voulais savoir si ma salle de les travaux donc, que j'ai fait, par facture qui montre bien donc, les travaux,
oui.
Si je peux les déduire de mes biens locatifs, donc de mes revenus.
Voilà, mais vous posiez la question tout à l'heure, puisqu'on vous avait pris en première heure, vous posiez la question de savoir s'il y avait une différence entre une réhabilitation...
Une reconstruction, parce que c'est vrai que l'administration met un pinaille là-dessus.
Alors,
Alors oui, madame, je vous confirme, un, que vous pouvez déduire ces travaux, et deux, que c'est une bonne question, parce que c'est un cas de litige entre les contribuables et l'administration permanente, de savoir si ce sont des travaux, effectivement, d'entretien et de rénovation, ou des travaux de reconstruction. Mais tant que vous ne faites pas des travaux lourds qui attaquent le gros œuvre, ou que vous n'augmentez pas la surface habitable de votre immeuble, ce sont des travaux parfaitement déductibles et des revenus fonciers.
Parce que qu'est-ce qui pourrait ne pas être déductible ? Pour préciser les choses.
Eh bien, dès qu'on augmente la surface habitable, donc quand on commence à casser un mur, à pratiquer des ouvertures, à rajouter des fenêtres, là, des questions se posent et on est en risque, effectivement, de redressement fiscal.
Mais donc, une rénovation de salle de bain, c'est bon, elle peut déduire.
Aucun problème.
D'accord.
Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, Annie.
Bah,
très
oui.
Bien, parfait.
Bah, oui, bien sûr.
Après, comment ça marche ? C'est quel taux ? Comment ça fonctionne, là ?
Là, ce sont une déduction au coût réel des charges, des dépenses qui sont déduites des revenus, donc du taux progressif, du taux classique.
Très bien, on parle impôts jusqu'à 10h sur RMC avec vos questions. Si tout comme Annie, vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Peut-être étiez-vous avec nous tout à l'heure, entre 8h et 9h, on vous a proposé de remporter une plancha.
Ah oui.
Très beau cadeau.
C'est pas moi qui l'ai gagné. Donc.
Et j'en ai bien peur.
Nos invités non plus, parce qu'ils n'ont pas pu jouer.
Eh ben non. Ils n'ont pas pu jouer. En revanche, Martine, elle a joué et elle a gagné. Martine de Noyarret, c'est dans l'Isère. Bravo Martine, vous avez remporté cette plancha. Félicitations. Il y en aura, je pense, quelques autres à remporter dès la semaine prochaine.
Les planchas Crampouz, 100% inox, de qualité professionnelle et fabriquées en France.
On revient dans un instant. Et 32-16, hein, si vous voulez poser vos questions sur la défiscalisation, sur les impôts, on vous attend. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel.
Il est 9h20, c'est RMC, le week-end des experts. La maison et les impôts, c'est la saison. Il faut y aller, il faut y passer. Tout dépend en plus où on en est, parce que vous savez qu'il y a certaines régions qui doivent déclarer leurs impôts de manière plus rapide.
C'est
Il y a tout un échéancier. Alors à Paris, c'est la bonne période, puisque c'est jusqu'en juin, je crois.
Hein. Oui, c'est ça.
Surtout si
c'est
on déclare sur Internet, on a encore un délai supplémentaire.
C'est à la fin, puisque c'est dans l'ordre croissant du numéro des départements.
C'est ça.
Voilà, nous sommes avec Maître Pascal Michaud, donc avocat fiscaliste, et Hugues de Tapie pour la défiscalisation. On va en parler dans quelques minutes. Une question qui, à mon avis, est assez rapide à résoudre, mais... Les questions de taux de TVA, on s'y perd un peu là-dedans. Il y a eu le 5,5, il y a maintenant le 10, il y a eu le 7. Enfin, alors, on peut, vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus.
Alors oui, très rapidement, le taux de droit commun en TVA, c'est 20%. Donc en principe, oui. Le taux applicable, c'est 20%. Sauf pour les travaux qui sont faits dans les immeubles d'habitation qui ont plus de 2 ans d'existence, donc pas dans le neuf, pour lesquels effectivement on a un taux dit réduit à 10% dans la mesure où c'est fait par un professionnel.
Pour les aménagements, donc.
Pour les aménagements qui vous fait remplir effectivement une attestation comme quoi c'est bien de l'habitation dans un immeuble de plus de 2 ans. Et puis on a un petit taux super réduit à 5,5% pour les travaux d'économie énergétique.
Tout ce qui est ce qu'on appelle le CITE.
Exactement.
Voilà, très bien. Et le papier qu'il faut signer là, c'est important de le demander ?
Alors c'est important de le demander parce que c'est votre indice que les choses sont bien faites et que votre artisan déclare bien la TVA. Mais si vous ne le signez pas avant la facturation, normalement le taux réduit n'est pas autorisé.
Ah d'accord. Ah oui. Alors... Faut faire attention quand même.
Donc il faut le signer alors.
C'est mieux. D'accord.
Anne-Marie est avec nous, elle nous a appelé au 3216. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
Moi j'ai deux questions importantes à vous poser. J'ai un appartement qui a été loué jusque-là et l'année dernière, le locataire est parti en milieu d'année. Je voulais savoir que malgré son départ en milieu d'année, je peux déduire la taxe foncière en déduisant les ordures ménagères.
Alors madame, oui, vous pouvez la déduire dans la mesure où la taxe foncière, elle a son fait générateur au 1er janvier. Donc si au 1er janvier c'était loué, vous pouvez la déduire. Si par contre au 1er janvier ce n'était pas loué, vous pouvez la déduire uniquement si c'est resté affecté à la location, c'est-à-dire si vous cherchiez un nouveau locataire.
Non, c'était donc loué au 1er janvier.
Aucun problème.
Pas cette année, l'année dernière donc.
Oui, 2015. Oui, au 1er janvier de l'année.
C'était donc loué, le locataire est parti au mois de juin, et donc je peux donc la retirer.
Effectivement madame.
Et si, à partir du mois de juin, ça n'a pas été loué du tout, j'ai quand même continué à payer, évidemment, des charges de copropriété. Ces charges-là, je ne peux pas les déduire.
Alors, vous ne pourrez plus les déduire, sauf si vous pouvez démontrer que vous avez continué à chercher un locataire.
Ah, d'accord. Et alors voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut fournir comme preuve?
Des annonces, comme ça?
Bien sûr, des annonces et éventuellement les échanges de courriers.
Voilà. Très bien. Donc, tout appartement, à partir du moment où il n'est pas loué, de toute manière, on ne peut pas retirer les charges de la copropriété.
Il faut affecter le logement à location. Donc, tant que vous n'y habitez pas et que vous cherchez un locataire, vous pouvez déduire, sinon c'est impossible.
D'accord. En tout cas, on a bien compris que pour la taxe foncière, à partir du moment où on a un locataire le 1er janvier, c'est bon.
Exactement.
Voilà. Même s'il part le 1er février, finalement.
Et oui.
Alors, justement, à propos de ces taxes foncières, comment se fait-il qu'on a des différences parfois étonnantes entre deux maisons de même type, l'une à côté de l'autre, et on paye d'un côté une taxe de 100 et de l'autre côté de 200. D'où ça vient ces différences?
C'est votre piscine, ça, Christian,
ouais,
qui fait ça, je pense.
Eh bien, ça vient malheureusement du fait que la loi a été extrêmement mal faite à l'origine. Des évaluations ont été faites de tous les immeubles en 1970 et elles n'ont pas été refaites depuis de manière très partielle. Du coup, vous avez énormément d'immeubles qui sont mal évalués parce qu'ils ont évolué, ils ont été reconstruits ou tout simplement ils sont postérieurs à cette date. Donc vous avez des différences parfois totalement aberrantes qu'il faut contrôler.
Et alors contrôler, vous dites quoi?
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors vous écrivez à votre centre des impôts fonciers, vous demandez la fiche d'évaluation et la fiche de calcul qui vous permettront de savoir comment est calculée votre taxe et à partir de la comparaison avec quel immeuble. Ensuite vous allez voir cet immeuble et vous constatez que c'est comparable ou pas.
Oui, alors qu'est-ce que va faire le fisc? Il va augmenter le voisin, du coup?
Alors, effectivement, c'est le risque. C'est le risque, mais en fait, c'est toujours comparé qu'un immeuble dit de référence. Cet immeuble de référence, lui, est bien évalué, donc ils vont pas modifier l'évaluation de l'immeuble de référence. Donc,
d'accord.
Si vous avez le sentiment d'avoir été effectivement en partie spolié, vous pouvez faire une réclamation. En général, ça fonctionne.
D'accord, et alors, mais ça fonctionne pour l'avenir, ou c'est rétroactif? Parce que le fisc, il vient bien vous rechercher pendant 3 ans, c'est 3 ans, hein?
Alors, le monde est injuste. Le fisc peut venir vous chercher pendant 3 ans, mais vous ne pouvez réclamer que sur l'année précédente quand vous êtes un contribuable en impôts locaux.
Ils sont malins, quand même.
On va dire malin, oui.
Ouais, voilà, c'est ça.
On va être gentil.
C'est ça. Bon, écoutez, il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble sur ce sujet. On va parler de défiscalisation aussi tout à l'heure, Christian.
Voilà, tout de suite.
Le 3216 ou bien maison@rmc.fr. N'hésitez pas, nos invités sont là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. Ce matin, on revient après la météo et les infos de 9h30. A tout de suite.
Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC.
Attention, Cricri, il est en train de poser une question flash.
Je vous écoute.
C'est la question de Francine que nous avons reçue par mail, maison@rmc.fr. Que pensez-vous du liège comme revêtement mural dans une salle de bain, Christian? On me dit qu'on peut même en mettre au sol.
Oui.
N'est-ce pas trop fragile et surtout, est-ce bien étanche?
Alors, le liège en revêtement, qu'il soit mural ou au sol, eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est plus très à la mode. Ça l'a été beaucoup dans les années 70-80. Mais ça a tendance à revenir et c'est une bonne chose. Alors, pourquoi c'est une bonne chose? D'abord, parce que c'est un matériau naturel et parfaitement renouvelable, évidemment, sur les chaînes liège. C'est un matériau qui se tranche facilement en feuilles, généralement de 4 mm d'épaisseur, et qui, classiquement, est proposé en dalle de 30-30 dans des teintes qui peuvent être variées, des décors et des structures qui le sont également. Alors c'est une utilisation en déco tout à fait intéressante, mais aussi on s'en sert de sous-couche sous un autre revêtement, notamment de sol, et puis aussi ça peut être utilisé en granulé pour l'isolation. C'est pas un excellent isolant, mais c'est quand même pas mal. Alors en revêtement de mur ou de sol, eh bien ça passe très très bien dans la maison où le liège peut prendre place dans différentes pièces et notamment dans la salle de bain. Alors la question classique, c'est est-ce que c'est étanche? Bah, évidemment c'est étanche, sinon on n'en ferait pas des bouchons pour les bouteilles de vin.
Ça c'est clair.
Est-ce que c'est fragile? Eh bien non, c'est pas fragile puisque ça résiste au poinçonnement, y compris des talons aiguilles, et c'est pas fragile en termes de revêtement de sol puisque c'est recouvert d'une couche de vinyle protectrice. Donc c'est un excellent produit de décoration.
32-16 pour toutes vos questions maison sur RMC. On vous attend, on est là jusqu'à 10h avec Christian Pessé. Et à votre santé, Cricri.
Merci.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel.
Il est 9h35, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bon samedi avec nous jusqu'à 10h. Eh bien, c'est la maison et c'est les impôts. Plus précisément, on évoque les impôts ce matin. Christian, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler de défiscalisation entre autres. Vous savez qu'on est très généreux sur RMC. Après la plancha de tout à l'heure, maintenant on va bricoler.
On va vous offrir une perceuse, perceuse à percussion.
Ne nous remerciez pas sur RMC, c'est la fête.
Voilà, un très beau matériel semi-pro de chez Stanley, donc c'est une excellente marque. C'est une perceuse avec deux batteries 18 volts tout à fait puissantes, avec un mandrin qui ouvre à 13 mm.
Là, on peut en faire des trous. Hein.
On peut en faire des trous. Voilà, ça vous est offert par RMC et évidemment par le magazine System D.
Et cette perceuse est à gagner dès maintenant. Simplement nous envoyer un petit SMS, les amis. C'est pas plus compliqué que ça. Vous envoyez maison au 7-32-16. Maison sur votre mobile au 7-32-16 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance.
Eh oui.
Bon, Christian.
Eh bien, on va parler défiscalisation. On a encore beaucoup de questions sur les questions d'imposition.
Alors, je vous propose justement d'accueillir Serge et on parlera après de défiscalisation. Serge est là. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, messieurs. Bonjour, tout le monde.
Bonjour.
Oui. Alors, ma question, c'était, voilà, quand on est un bricoleur, moi, je suis un bon bricoleur, je rénove ma maison, et quand on achète du matériel de qualité, sans passer par un artisan, je vois au niveau électrique, plomberie, les fenêtres et l'isolation, est-ce qu'il y a possibilité de déclarer aux impôts une partie de ces frais engagés?
C'est une très bonne question. Alors, ça se pose souvent pour les crédits d'impôt. Là, on sait qu'on n'a pas de crédit d'impôt si on n'est pas passé par un artisan ou une entreprise avec une facture dûment établie. Maître Michaud, en revanche, si on fait vraiment des gros travaux, qu'on les fait soi-même, est-ce qu'on peut quelque part déduire donc ces frais ou pas?
Alors, on va allumer votre micro. On y va. C'est bon.
Alors, en théorie, oui. En théorie, ce sont des dépenses engagées pour les revenus de location, donc on doit pouvoir les déduire. Mais en pratique, l'administration est très difficile là-dessus. Donc, si vous n'avez pas des factures d'entrepreneur, il faut conserver toutes vos factures d'achat, mais aussi toutes les preuves d'achat. Donc, n'utilisez pas d'espèces, utilisez uniquement des mouvements bancaires pour garder la preuve que vous avez effectivement eu ces dépenses. Donc, ce sera compliqué.
Et est-ce qu'il ne faut pas aller voir à ce moment-là son vérificateur? Ça ne peut pas aussi se négocier, discuter, aller voir les impôts pour leur demander?
Alors effectivement, on peut leur demander avant ou en tout cas mettre une mention express dans sa déclaration de revenus pour expliquer ce que l'on a fait et pourquoi on l'a fait.
D'accord.
C'est toujours positif de dialoguer avec le fisc?
C'est souvent positif, pas toujours.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, par exemple?
Alors, il ne faut pas en dire trop. L'administration n'est pas là que pour vous faire du bien, loin de là. Donc, il faut venir avec les explications qu'on veut donner, mais il ne faut pas parler de sujets annexes, parce que sinon, ça risque de déclencher des contrôles sur des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas.
Ils ne sont pas tout le temps bienveillants.
Si, par exemple, on est allé chercher de la plaque de plâtre et qu'on dit qu'on l'a mis dans le coffre de la Rolls, évidemment, ça peut poser un problème.
Par exemple, il faut un peu de bon sens.
Ouais. Voilà. Enfin, mettre des plaques de plâtre dans le coffre d'une Rolls, franchement.
Mais c'est possible parce que maintenant, il y a des plaques de plâtre qui se plient.
Ah, d'accord.
On n'a pas les sièges arrière.
C'est un peu dommage. À ce moment-là, on loue une petite camionnette. Serge, vous vouliez poser une autre question ou tout va bien?
Non, je vais prendre rendez-vous avec Trésor public.
Eh bien voilà.
Pourquoi pas?
Et n'y allez pas en Rolls, alors, à ce moment-là.
Non.
Attention.
Ça risque pas. Quand on fait des travaux, l'argent, il passe ailleurs.
Voilà. Prenez les transports en commun. Voilà. Et pas de soucis. D'accord. Merci Serge. À bientôt.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
On poursuit, Christian. Nous avons Mustapha avec nous.
Allons-y.
Mustapha, bonjour.
Bonjour. Voilà. Donc, je suis loueur non professionnel, donc un particulier. Je loue un appartement meublé.
D'accord.
Et on me demande dernièrement de me déclarer comme une société, donc faire un numéro de sirène. Et je ne sais pas quoi je vais être, comment ça va marcher après. C'est-à-dire, quelle imposition ils vont venir? Parce que bon, je pense que c'est pas neutre de demander.
C'est pas anodin. Si on s'intéresse à vous, Mustapha,
Maître Michaud. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais une explication, s'il vous plaît.
Oui, on va vous répondre, Mustapha.
Oui, bien, quand l'administration s'intéresse à vous, c'est jamais une bonne nouvelle. Mais effectivement, s'ils vous demandent de faire cette déclaration, il faut la faire. Et vous allez être soumis à une imposition normale, avec des abattements, qui plus est, parce qu'en matière de location meublée non professionnelle, il y a des abattements intéressants.
Oui, c'est 50%, je crois. Hein.
Ça peut être 50%. Mmh. Vous ne serez pas forcément perdant. Mais effectivement, si vous ne le faites pas, vous aurez un contrôle et un redressement. Donc, il faut s'exécuter.
Voilà, il faut s'exécuter. Très bien.
Bon,
on va passer à la défiscalisation. Donc, avec
Hugues... Ah, c'est un sujet qui vous... Ça vous fait sourire, hein, Christian.
Oui, ça fait sourire. Alors moi, ma première question, elle sera, bon, ça n'a pas tellement bonne presse en ce moment, les îles Caïmans et autres. Est-ce que finalement, la défiscalisation, c'est pas une incitation à la dissimulation de revenus et d'une certaine façon d'échapper à ses devoirs citoyens d'être soumis à l'impôt?
Voilà, c'est une question signée Google et Apple.
Ouais. Alors, en ce qui concerne la dissimulation, on ne fait qu'utiliser, qu'appliquer le Code général des impôts, ni plus ni moins. Et toute opération de défiscalisation donne lieu à une déclaration spécifique. Donc il n'y a rien à dissimuler. Et pour ce qui est de ses devoirs de citoyen, il faut savoir que si l'impôt est très élevé en France, c'est notamment pour orienter l'épargne.
Oui.
Et le bâtiment est le premier secteur de l'économie, avec un déficit chronique de logements en France. Et depuis très longtemps maintenant, donc les différents gouvernements successifs ont mis des incitations fiscales pour la construction et l'achat donc de logements par les particuliers.
D'accord, vous voulez nous dire que c'est donc l'État lui-même qui incite à aller vers des solutions de défiscalisation immobilière.
Absolument.
Mais pourquoi, par exemple, parce que on a vu
pour aider l'immobilier.
Oui, d'accord, on a vu aussi des incitations qui dans les Antilles permettaient d'avoir des appartements pour avoir une bouée devant sa marina.
Ah, alors, dans les Antilles, certains abus, certains montages se sont faits de façon incorrecte. Il n'est pas exclu que ce soit toujours le cas dans des cas particuliers. Donc, il faut être vigilant, bien sûr.
D'accord.
Maintenant, si les Antilles ou les dom-toms en général, d'ailleurs, ne bénéficiaient pas aujourd'hui encore de la loi Girardin, notamment, ou de la loi Pinel Outre-mer, elles souffriraient beaucoup.
D'accord.
Oui, parce que ça permet donc la construction d'immeubles, d'appartements et de logements pour tous les habitants de ces îles.
Tout à fait, et en métropole aussi, mais l'avantage fiscal est d'ailleurs moins fort en métropole, mais il est tout aussi nécessaire.
Hmm. Alors la loi Pinel, c'est quoi par exemple? Ça a repris la loi Duflot, qui paraît-il marchait très mal. Alors ça marche mieux, il semblerait. C'est quoi le Pinel?
En effet, donc vous achetez un...
Pas l'eau Pinel, qui est un petit couteau. Hein.
Vous achetez un appartement...
Donc, ça permet de couper sa déclaration.
Le plus souvent, ça se fait sur du neuf, mais pas uniquement. Ça peut être également des immeubles réhabilités ou transformés en logement, des immeubles anciens, avec un cahier des charges, notamment sur le plan thermique.
Mais alors concrètement, attendez, c'est quoi concrètement? Moi, je n'en ai jamais fait.
Oui.
Demain, je veux faire un Pinel, c'est quoi?
Donc, vous achetez un appartement dans un immeuble en construction, la plupart du temps, ou en réhabilitation, donc, et avec derrière une contrainte de location,
d'accord,
qui va être de 6 ans minimum, mais ça peut être 9 aussi, ou 12 ans. Et en fonction de la durée de location, vous aurez droit à une réduction d'impôt qui sera variable en fonction de cette durée.
D'accord. Voilà. Donc, tout ça parce qu'on manque de logements en France.
Oui.
Donc, on va... créer des logements,
oui,
les payer et permettre à des personnes donc de louer ces logements. Donc finalement, le gouvernement est gagnant. C'est pour ça qu'on a cette déduction fiscale.
Oui, d'ailleurs à la clé, vous avez de la TVA, vous avez évidemment des créations d'emplois. On parle de 3 créations d'emplois pour un appartement vendu.
C'est
pas absolument. Derrière, le gouvernement va encaisser des loyers qu'il va taxer lourdement à l'impôt et à la CSG, etc.
Alors, beaucoup moins connu, le Malraux et le monument historique. C'est votre grande spécialité.
Oui, absolument.
Alors, ça, c'est quoi? On achète quoi? On s'achète un château comme ça?
Alors, généralement, non.
Ou un bout de château?
Non. En Malraux, jamais, puisqu'en Malraux, on est par définition dans un cœur de ville, dans un secteur qui est défini par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et qui peut être un secteur sauvegardé ou une AVAP, ou encore une ZPPAUP, secteur.
Oula, la ZPPAUP, là, il faut être costaud quand même, parce que franchement.
Disons que il y a différents secteurs. Pourquoi? C'est parce que selon le secteur dans lequel vous êtes, la réduction d'impôt ne sera pas la même.
Hein?
Dans un cas, donc tous les cas, ce sera des immeubles entièrement restaurés, transformés et avec des logements, des appartements mis en location.
Mis en location. C'est
absolument
pas pour soi-même.
Non, jamais.
Jamais. Ça peut être pour ses enfants.
Ça peut être pour ses enfants. Il faut pas qu'il soit dans le foyer fiscal.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, mais si j'ai un fils de 40 ans, je peux faire du Malraux et l'installer boulevard Haussmann.
Oui, si ce n'est que boulevard Haussmann n'est pas un secteur sauvegardé.
Ah bon.
Le Marais a été restauré comme ça. Voilà.
Ah oui.
Des pans entiers de Bordeaux, de Tadbus. On a en France une centaine de secteurs sauvegardés. Oui, vous vouliez poser une question?
Non, continuez, mais après, c'est une question plus concrète, mais allez-y.
Donc, réduction d'impôt qui va être de 30% des travaux. Là, la réduction d'impôt est liée uniquement aux travaux.
Ah oui.
Et on est en réduction d'impôt comme en Pinel. C'est-à-dire que c'est directement sur votre impôt qu'est déduit le gain fiscal. Alors que, en monument historique, vous achetez également un appartement dans un immeuble restauré, qui doit être classé ou inscrit. D'où sa notion de monument historique, qui n'a rien à voir avec le Malraux, en réalité. Ça peut être n'importe où, un monument historique, c'est un bâtiment isolé, enfin, qui est
c'est là
classé
où on peut se payer le château, quoi.
Ou inscrit pour ses qualités intrinsèques. Ça peut être un château. Mais derrière, il faut le louer aussi, comme en Malraux.
Oui, c'est comme ça. Donc, que M. Giscard d'Estaing s'est fait son château, si je me souviens bien. Il y avait eu un petit scandale canard à l'époque.
Oui, bon.
Et
ça sera pas le premier, pas le dernier, hein, ça c'est sûr. On peut déduire jusqu'à quel montant, en fait, avec ces lois de déduction. Par exemple, un Pinel, c'est important. C'est des grosses déductions.
En Pinel, l'investissement est plafonné à 300 000 euros par an. Et votre réduction d'impôt, concrètement, sera de 2% par an. Donc, ça vous fait 6 000 euros de réduction d'impôt par an. Et c'est soumis au plafonnement global des niches fiscales qui est de 10 000 euros.
Mais le Malraux, c'est pas plafonné?
Si. Alors, le Malraux n'est pas soumis au plafonnement global des niches fiscales. En revanche, il a son propre plafonnement. Puisque vous ne pouvez passer que 100 000 euros de travaux par an. 100 000 euros de travaux par an, une réduction d'impôt de 30% dans un cas, 22% dans l'autre, selon le secteur géographique. Mmh. Donc, 30 000 euros de réduction d'impôt, 22 000 dans l'autre. Dans un cas, 22 000 dans l'autre.
Pas mal. J'ai à Christian.
Oui, je vais y penser.
Il faut prendre la carte de monsieur.
Vous aussi, là.
Franchement. On revient dans un instant et nous aurons Arlette qui va nous parler de mobil-home. Alors vous dites, mais quel rapport entre le mobil-home et la défiscalisation? Eh bien écoutez, visiblement, il y en a un. On en parle dans une minute. A tout de suite, c'est RMC.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel.
Merci d'être avec nous sur RMC, votre matinée chez nous. À partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien entendu. Avec Christian Pesset, on évoque la maison ce matin, comme chaque samedi d'ailleurs, entre 8 et 10. Plus particulièrement, les impôts et la défiscalisation. Et nous avons Arlette qui est là. Bonjour Arlette.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Aujourd'hui je vous appelle, c'est pas pour une habitation, mais ça concerne bien la défiscalisation.
Alors allez-y.
Voilà, je voulais avoir un peu vos lumières avant de m'engager, de signer n'importe quoi.
Ça vaut mieux.
Comment?
Ça vaut mieux.
Oui, ça vaut mieux parce qu'on s'engage et puis après on ne sait plus comment ça va aller. Voilà. Alors là, c'est une société qui s'appelle, je vais la nommer, qui s'appelle Société spécialisée Serenity pour les mobilhomes. On a acheté notre mobilhome en mars cette année, on nous a fait miroiter la LMNP, loueur en meublé non professionnel, et on nous a annoncé que par rapport à l'achat, le prix d'achat du mobilhome, on allait être défiscalisé et être remboursé sur ce mobilhome de 2783 euros exactement, plus sur facture de terrasse, plus si on achète pour mettre dans le mobilhome, enfin un tas de choses qui font miroiter. Bon, alors à part ça, les honoraires de cette société reviennent à 514 euros TTC à l'année, la première année, 350 euros les autres années. Mais je voudrais savoir, c'est parce qu'on m'a mis la puce à l'oreille, j'ai appelé un expert comptable dans ma région, très près de chez moi, qui m'a dit, halte là, faites attention, parce que, défiscalisé, pourquoi, vous n'êtes pas déjà loueur, moi on ne veut pas louer, déjà.
Ah oui, en plus.
Et voilà, on ne sera pas loueur. Mais il m'a dit, vous risquez...
redressement, tout simplement.
Ah oui.
Alors, maître Michaud ou bien Hugues de Tapie, quelles sont les réponses que vous pouvez fournir à cette question?
Vu votre regard sombre, maître, je crains le pire.
Effectivement, madame, vous faites bien de vous méfier. Si vous n'êtes pas loueur, vous pouvez pas bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel, c'est une évidence. Et sur un mobil-home, il n'y a pas spécialement d'avantages fiscaux. Donc, ça ressemble beaucoup à une arnaque. Vous devriez vous renseigner, savoir exactement sur quel texte de loi il se fonde.
Très bien. Hugues de Tapie, on parle là d'arnaque ou de, peut-être de miroir aux alouettes. On a quand même eu souvent, nous, ici, des appels concernant justement la loi du flot ou bien maintenant le dispositif Pinel. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque important? Parce que derrière, vous l'avez souligné tout à l'heure, il faut louer. Et donc, si jamais on loue pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque? Est-ce que des organismes comme les vôtres fournissent des garanties lors d'investissements importants? Comment ça se passe?
Alors, en ce qui concerne le Pinel, il y a déjà quand même, et par rapport au risque locatif, qui est le premier risque sur ce type d'investissement Pinel, dans le neuf notamment, le risque est un petit peu réduit dans la mesure où seuls sont éligibles au dispositif Pinel certaines zones géographiques, où il y a une demande avérée de location.
Donc étant donné qu'il y a des demandes, en théorie, l'appartement devrait se louer.
En théorie. Pour autant, bien entendu, quand vous achetez dans une banlieue improbable d'une ville improbable, il est prudent de vérifier, idéalement d'aller sur place, et en tout cas de sonder le marché local, puisque souvent on achète à distance, loin.
Il y a eu des histoires.
Et puis là, la prudence, c'est quand même d'acheter pas trop loin de chez soi, parce que quel que soit un dispositif Pinel ou pas, quand on est bailleur, si on peut pas aller faire le dépannage nécessaire ou l'intervention, c'est toujours très risqué, non?
De fait, en Pinel, oui, vous avez une offre pléthorique près de chez vous, généralement, donc il n'y a pas de raison d'aller chercher à l'autre bout de la France ce qui existe à côté de chez vous. En revanche, pour les opérations de restauration immobilière de type Malraux ou monument historique, qui elles sont beaucoup plus rares, voire rarissimes pour les opérations monument historique, l'offre donc ne permet pas généralement de trouver une solution de ce type près de chez soi. Là, le risque locatif est quasi nul parce que vous êtes en Malraux toujours en centre-ville sur des immeubles de grande qualité.
Oui.
En monument historique, les rares opérations qui se montent se font aussi en centre-ville sur des immeubles par définition de très grande qualité. Donc dès lors que l'on respecte des niveaux de loyer raisonnables, le risque locatif est quasiment réduit à néant. En revanche, il faudrait être très prudent là sur ces opérations, sur le montage. À savoir l'opérateur avec lequel vous travaillez, sur des opérations très complexes fiscalement, avec des travaux à réaliser qui peuvent être réalisés plus ou moins bien, dans des délais plus ou moins importants.
Et le fisc qui guette ça. Il faut une expertise.
Il faut une expertise qui est donnée à très peu d'opérateurs. Donc sur ce type d'opération, nous travaillons toujours avec une garantie de bonne fin fiscale.
C'est-à-dire
qu'un cabinet d'avocats assure en réalité la défiscalisation. Dès lors que vous respectez le process, la procédure qui est très particulière de montage de ces opérations en tant que client, notamment au niveau du financement, etc., et de vos déclarations, bien entendu, ensuite, avec une aide à la déclaration qui est apportée par ces cabinets.
Il va y avoir une sorte d'assurance.
Exactement. En cas de demande du fisc, à ce moment-là, le cabinet d'avocat intervient et apporte lui-même la réponse, ou du moins le modèle de réponse, sans que vous ayez à vous occuper de quoi que ce soit. Les éléments, les pièces qui vont être demandées, comme généralement, on a plus souvent des demandes d'information que de redressement. Et si, in fine, un redressement fiscal avait lieu, l'assurance du cabinet d'avocat la prendra en charge.
Très bien.
Juste une petite question pour terminer. On parle de plus en plus d'impôt à la source. Est-ce que ça va complètement révolutionner la fiscalité,
Maître Pascal Michaud?
Oui, Jean-Pascal Michaud. Oui, effectivement, ça va tout révolutionner parce que dans un pays comme la France qui fonctionne avec le système du foyer fiscal, c'est pas du tout compatible avec la retenue à la source et ça va être très compliqué à gérer, notamment pour déterminer quels sont les taux d'imposition applicables pour les employeurs et pour les salariés.
L'idée, c'est de retirer tout ça tous les mois, en fait, sur sa fiche de paye.
Exactement, mais comment le calculer? On leur souhaite bonne chance.
Ouais, et d'ailleurs, c'est repoussé d'année en année à chaque fois.
C'est pas la première fois qu'on essaie, oui.
Voilà.
Merci, Maître Jean-Pascal Michaud. Merci. Vous avez un site www.avocat-fiscaliste.fr tout attaché, et pour Hugues de Tapie, jedéfiscalise.com, tout d'un seul mot, c'est très facile à faire.
Serge Simon est avec nous. Salut Serge.
Bonjour Christian.
Bonjour.
François, comment allez-vous?
Comment ça va, Serge?
Bien. Ben, ça va bien.
T'as rempli ta feuille d'impôt, ça y est?
Ah ben, moi, j'ai tout entendu, j'ai rien compris, mais c'est parfait.
Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux,
bon, Serge.
C'est des sportifs, ça.
C'est ça. Nos cerveaux malades, bien
imagé. Non, ils oublient souvent de déclarer, je crois.
Je crois qu'il y a quelques sportifs qui auraient peut-être une bonne idée d'écouter votre émission.
Mais ça, c'est un podcast,
c'est sûr. Et parfois, ils étaient conseillés, mais mal conseillés, c'est ça.
Oui, alors oui, c'est vrai que ça attire beaucoup ces fameux conseils, j'adore, moi.
Serge, on se retrouve dans un instant pour le jeu du sport.
Les grandes gueules, on va parler de plein de choses sympas, du foot, du rugby, du hard rock. Tiens, tu sais pourquoi?
Aïe.
Parce qu'on a choisi comme hymne pour l'Euro 2016.
Ah oui, j'ai vu ça, I was made for loving you.
Eh oui, et ça fait gueuler le ministre de la francophonie. Et
voilà. Serge Simon, dans un instant, les GG du sport, après la météo, les infos, portez-vous bien, bon week-end. Moi, j'ai le plaisir de vous retrouver demain dimanche. Salut à tous.